Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Beaucoup de nouvelles ce matin. Bien sûr, les décisions du gouvernement concernant les écoles, les magasins, grandes surfaces, couvre-feu. Je vais commencer par le dossier des écoles. En résumé, je sais très bien, là, je vous lis, là, puis je vous entends. Les parents, les profs, le personnel scolaire sont divisés et ils sont inquiets. La santé publique dit, quand on balance, cherche l'équilibre, il n'y a pas de risque zéro, on est mieux d'avoir des enfants à l'école que d'avoir des enfants à distance. Ce n'est pas le même type d'enseignement. Il y a une série de problèmes de santé publique, je dirais, qui découle de cet enseignement hors de l'école. Donc, sur ce principe-là, on est mieux avec des enfants à l'école qu'à la maison. Je sais que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Deuxièmement, hier, vous avez remarqué, le ministre Roberge, à qui on va parler tantôt, nous explique que les classes sont sécuritaires. Nous explique également qu'il y a un plan qui est prévu, une espèce de plan de contingence, pouvant aller jusqu'à demander à des parents, pas d'enseigner, là, mais à des parents de remplacer un prof qui serait absent à cause d'un test positif ou à cause de symptômes, bref, en cas de manque de personnel. On sait déjà que dans les écoles, on manque de profs. Fait que là, des gens écoutent ça et ils se disent, faire un système de santé, mais d'éducation, un peu bric-à-brac. Et je pense que les prochaines semaines seront assez bric-à-brac. Parce que c'est pas vrai là, qu'on va prendre tous les enfants, puis la vaccination chez les élèves du primaire, là, je pense à ça d'abord, varie énormément. Et donc, ces enfants-là retournent. Et on sait qu'avant Noël, il y avait quand même beaucoup de cas dans les écoles. Là, on a changé les règles. Je vous dirais qu'on a changé la méthode de compter aussi. Là, c'est pas certain qu'on va avoir des portraits très clairs de ce qui se passe dans les écoles. Mais mettons que là, j'ai envie d'être hyper positif ce matin. Je me disais, puis en écoutant ça hier, là, les profs, ils demandent quoi? Puis en même temps, les parents, ils demandent des masques N95 ou l'équivalent. Ils veulent avoir de la ventilation de qualité. Là, j'ai fait le tour. Puis encore ce matin, le Globe and Mail. Là, la santé publique, tout ce qu'ils nous disent, c'est que vous n'avez pas besoin de ça. Le petit masque de procédure fait parfaitement l'affaire. C'est pas ça qu'on veut entendre. Parce qu'on n'est pas des imbéciles non plus. On regarde l'Ontario qui fournit des N95. On regarde la France qui fournit des modèles à peu près équivalents. Mais des modèles différents du masque de procédure. La santé publique doit l'expliquer. Puis là, il y a des gens qui m'écrivent aussi, puis je l'ai lu ce matin, gros article dans le Globe and Mail sur le fameux N95. C'est pas nécessairement idéal à porter pour enseigner. Puis il faut bien l'installer. Il y a un protocole à suivre. Puis c'est quand j'entends aussi des gens de la santé publique dire on n'est pas pour mettre des échangeurs d'air parce que, mettons que c'est mal installé, ça va être problématique. C'est quoi ce raisonnement-là de postuler que ça va être mal installé? Fait que dans le fond, hier, Québec n'a pas été capable de rassurer les profs puis les parents qui sont inquiets. C'est sérieusement, là, ça aurait été quoi de fournir aux profs qui le demandent, qui le désirent, ces masques-là ou des masques à peu près de la même famille? Puis, c'est pas d'hier là, qu'on parle des problèmes de ventilation. C'est comme on nous explique là, qu'on est à peu près en train de rêver, qu'on exagère, qu'on est des vendeurs de thermopompes. Et ça faisait pas sérieusement, là, très convaincant pour des gens qui sont inquiets. On comprend la nécessité de retourner à l'école, mais la job de com hier, pour nous vendre ça, était déficiente à bien des égards. N'importe qui va un peu sur le web. Puis c'est vrai qu'il y a d'autres provinces qui ne veulent pas non plus distribuer le N95. Mais il y a un devoir d'explication. On ne peut pas juste dire « Excusez-nous, mais c'est ça, puis vous n'avez pas besoin. » Puis c'est pareil. D'abord, c'est pas pareil. Puis explique-moi pourquoi c'est pas pareil. L'autre chose, quelqu'un peut-il me dire « Oui, Mme Mécan? » Parce que hier, on parlait du primaire et du secondaire. Les étudiants de cégep et d'université aussi aimeraient avoir peut-être une petite mise à jour de ce qui se passe. Quand des cégeps décident de repousser de 2 semaines le retour, il n'y a pas d'enseignement à distance, puis on retasse de 2 semaines, puis ça affecte la fin de l'année, donc le travail étudiant durant l'été. Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de la ministre de l'Enseignement supérieur? Elle n'est pas là. C'est assez bizarre. Sérieusement, là. Donc, pour ce qui est des écoles, c'est ce qu'on prévoit. Ça arrive dans un contexte où je le sais, là, puis on parlait avec M. Prévost hier, puis j'ai eu des courriels en masse de profs, puis la tribune téléphonique, il y a même un prof qui lui était inquiet, qui dit « Moi, je me promène dans plusieurs classes là, quand t'es tout mou. » Est-ce qu'on a la certitude qu'on va donner des tests rapides à tout le monde, incluant le secondaire? Parce que l'annoncer puis le faire, là, des fois, il y a comme un délai. Et c'est clair qu'il y aura des cas. Et on comprend là, que le variant qui est contagieux est peut-être moins dangereux. Mais c'est à peu près certain qu'on va avoir des cas, puis ça a des effets dominos. Puis hier, on nous disait, le nouveau directeur de la santé publique, vous savez, l'école, c'est pas un foyer en tant que tel, c'est un reflet de la communauté. Ben, le reflet de la communauté, ça veut dire aussi, là, peu importe ça vient de quel bord, là, des parents qui doivent se placer en isolement, des parents qui doivent quitter le travail. Et disons, on le voit là dans plusieurs secteurs, les gens qui sont absents, puis manque de personnel, puis ça a des effets quand même importants. Deuxièmement, ça c'est pour ce qui est de l'école. Là, on nous dit qu'en fin de semaine, ça risque d'être le pire week-end. Puis là, je rappelle qu'on ne compte plus les cas, là, mais que le réseau qui est déjà sous haute pression devrait traverser un week-end difficile. Là. Puis il va faire froid, puis il y aura d'autres cas, puis sans doute que le nombre d'hospitalisations. Là, j'essaie de voir, parce qu'ils ont dit hier, on a probablement atteint le sommet. Il y a d'autres experts qui pensent qu'on ne peut pas tirer cette conclusion. Mais je ne veux pas me lancer ce matin dans ce débat d'experts. Là. Mais c'est sûr que ça a un impact colossal sur le réseau. Puis là, on a annoncé des mesures. Plus de vacances, on va vous payer le taxi, on va vous payer le lunch, on va, tu sais, venez vous en travailler le plus possible. Puis là, on essaie de rapatrier le personnel, puis de convaincre des gens de venir. On ne peut que saluer l'effort, mais je rappelle les propos du docteur Oliva hier, le président de la Fédération des médecins spécialistes. Tu sais, la clé demeure, puis le docteur Weiss nous répète ça depuis le début, la vaccination et une nouvelle façon de gérer cette pandémie, puis d'assumer certains risques, le retour plus rapide du personnel. Ça a commencé, semble-t-il. Mais au moins, c'est quand même assez positif. Le couvre-feu, personne ne m'a convaincu que c'était utile depuis le début. Là, on décide de l'enlever. Entre vous et moi, là, pas sûr que ça va changer quelque chose au bilan. Mais il y avait, par rapport à celui de l'an passé, là, où les gens n'étaient pas vaccinés, c'est tout un monde. Et cette idée d'empêcher les Québécois de sortir, d'avoir la liberté de mouvement, même si t'en as pas besoin. T'sais, quelqu'un qui me dit, mais moi, je sors pas le soir après 10 heures. L'idée, c'est pas c'est est-ce que tu sors ou pas. L'idée, c'est de te faire dire que tu peux pas sortir. Puis ce bout-là m'a toujours achalé depuis le début. Sérieusement, je comprenais pas la pertinence de ça. Dans les mesures annoncées hier, c'est évidemment l'imposition du passeport vaccinal qui suscite beaucoup de réactions. Dans les surfaces, ce qu'on appelle les grandes surfaces de 1500 m² et plus, à partir du 24 janvier. Je rappelle qu'on est le 14. Moi, ça me fait toujours un peu sursauter. On demande aux écoles de se revirer de bord en 48 heures, puis on demande à Costco, serais-tu capable, à travers une période de 10 jours, de t'organiser. Tu sais, cette espèce de message un peu incohérent. Quoi qu'il en soit, c'est le 24 janvier. Et donc, on va dire aux gens, en entrant chez Costco, ça prend le passeport vaccinal. Puis là, ça prend ta carte de membre en plus. Puis là, quelqu'un m'écrit en me disant, il y a un propriétaire là, d'une grande surface que je nommerai pas, qui me dit, « Monsieur Arcan, c'est quoi le rapport? C'est une mesure sanitaire qui n'a pas d'allure. Puis voyons donc, c'est grand. Puis pourquoi ils permettent aux petits commerces où c'est plus serré? Il n'y a pas la même exigence. » C'est pas une mesure sanitaire. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie de la stratégie du gouvernement d'accorder un avantage aux vaccinés. Puis, je vais reprendre l'expression de Macron, d'emmerder les non-vaccinés. Tu veux, en fait, tu refuses le vaccin, ben, t'iras pas chez Costco. Tu veux pas te faire vacciner, t'iras pas chez Walmart. Tu commanderas en ligne, t'enverras quelqu'un faire tes courses. On te permet, évidemment, d'aller dans les services essentiels, les commerces essentiels, l'épicerie, pharmacie. Là, vous allez me dire, ouais, mais Walmart, puis oui, c'est vrai. Mais on a déjà dansé un peu avec le même air, alors que des petits commerçants étaient fermés, les grandes surfaces étaient ouvertes. Alors, on va en reparler plus en détail, évidemment, tantôt. Ça fait le tour. Puis en passant, il y a un sondage qui est sorti hier, l'actualité qui publie, avec beaucoup de prudence, je dirais, je voyais les propos de Philippe J. Fournier, qui est une référence dans le domaine. Ce que ça montre, en gros, c'est que, pour les gens qui ne l'ont pas vu, puis prenez juste le cas du couvre-feu, là, 52 % des électeurs qui sont en désaccord, alors qu'il y avait un appui beaucoup plus important il y a un an. Donc, la CAQ va chercher 38 % des intentions de vote. C'est une baisse de 10 depuis un an. Toujours en avance, toujours avec une projection d'un gouvernement majoritaire, mais quand même, la CAQ qui perd des plumes. Le Parti libéral fait assez du surplace, avec 20 % d'appui. Québec solidaire a grimpé avec 19. Et le parti d'Éric Duhaime, quand même, d'après le sondage, aussi a augmenté quand même de façon importante. Il est à 13 % et devance le Parti québécois. Les marges d'erreur sont élevées. Il faudra le valider dans le temps puis avec d'autres sondages. Mais c'est clair, là, le constat qu'on peut faire, c'est que Québec a perdu l'adhésion de beaucoup de Québécois. Il y a une majorité qui écoute encore, là, puis qui suit les règles. Mais il y a une écœurantite. Il y a une écœurantite qui est quand même assez manifeste. Est-ce que ça va changer quelque chose au résultat de l'élection? C'est à voir, mais va être quand même assez intéressant à suivre. Dans les autres nouvelles, il y a Marguerite Blais, je le disais un peu plus tôt, qui témoigne aujourd'hui. Et Radio-Canada nous dit que le gouvernement n'a pas fourni plusieurs documents promis durant les audiences des derniers mois. Ça commence bien. Alors, il avait été convenu, semble-t-il, lors d'un premier témoignage de Mme Rose Bush, qu'une copie des programmes de soins palliatifs pour les CHSLD privés, mais visés par l'enquête, serait transmise. Puis il paraît que c'est pas là. Ça sent, depuis le début, là, un espèce de jeu pour protéger la machine. Je vous ai envoyé un mémo. Rappelez-vous, Mme McCann, peut-être pour ça qu'elle sorte pas non plus, là, mais... T'sais, on envoie un mémo flou dans la machine. Puis là, tu vois la bureaucratie qui essaie de se protéger. Rapidement, dans les autres nouvelles aussi ce matin, je parlais des camionneurs tantôt. Là, le Canada, le gouvernement canadien a dit, on s'excuse, là, mais ça va prendre la vaccination adéquate pour traverser la frontière. Donc, les camionneurs qui vont chercher ou livrer du stock aux États-Unis puis qui reviennent, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas. Là, on est dans un contexte où on manque de chauffeurs. On est dans un contexte d'approvisionnement difficile. Une chaîne, je ne parle pas juste une chaîne alimentaire. Là. Il y a Sylvain Charlebois qui parle de ça ce matin, qui dit que c'est clair, là, parce qu'ils évaluent, ça dépend là, quelle étude vous prenez, mais grosso modo, 10 % des camionneurs qui ne seraient pas adéquatement vaccinés. On pense plutôt du côté fédéral que c'est 5 %, mais quand même pas mal de monde. Donc, des tablettes vides comme on voit dans les supermarchés, quand on regarde aussi dans d'autres types de commerces, c'est sûr que ça aidera pas. Puis là, l'Association des camionneurs répète, on est pour la vaccination, on pense que c'est important, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des membres qui ne veulent pas l'être. c'est quand même un peu, ça va avoir un impact, c'est sûr, là, sur les approvisionnements dans le commerce. Étude, on en parlait hier matin, cette étude qui démontre que Montréal, c'est un exode, là, comme on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a, je voyais le résumé dans la presse de ce matin, là, c'est pratiquement 19 % de Québécois qui ont changé de région. C'est du monde, ça, qui déménage. Là. Puis ils sont partis vers les couronnes, vers les régions plus éloignées. Valérie Plante a dit « j'aime pas ça, mais c'est la pandémie, etc., etc. » Puis là, t'as un paquet de petites municipalités qui ont vu exploser les projets de construction résidentielle. Puis là, les gens se demandent un peu pourquoi. Il n'y a pas une raison. Je pense que la pandémie a fait en sorte que des gens ont décidé de s'éloigner, tout court. Des gens ont voulu avoir plus d'espace. Tu sais, quand tu découvres que tu vas peut-être passer plus de temps à la maison parce que tu es en télétravail, ben tu te dis « j'ai besoin d'espace ». Et l'espace coûte cher à Montréal. Puis il manque de logement, puis le prix est élevé, puis on a vu la spirale. Fait que tu te dis « voici mon budget, qu'est-ce que je peux trouver, puis où ?» Et je pense que ça, c'est un des facteurs les plus importants. Les gens qui ont quitté la ville, donc vous pourrez voir dans vos journaux ce matin l'ensemble du détail, mais c'est vraiment là, assez spectaculaire. Ça termine la revue de presse.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Le retour en classe pour les élèves du primaire et du secondaire va se faire à compter de lundi. Je sais que dans certains cas, il y a des journées pédagogiques, on n'est pas certain de la météo, mais bref, c'est la semaine prochaine, avec un plan de contingence, parce que, évidemment, le retour en classe veut dire possiblement d'autres cas, comme c'était la situation avant le congé des fêtes. Le ministre de l'Éducation est avec nous, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Deux ou trois questions, puis on va. Je vais peut-être être un peu plus pointu parce que beaucoup d'auditeurs là, ont des questions assez précises. Hier, le gouvernement nous a dit, vous étiez là, là, qu'on avait atteint une espèce de pic et on va l'atteindre au cours des prochains jours. En même temps, l'INES, qui est votre référence habituellement, dit qu'on ne peut pas tirer de conclusion. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que c'est la science qui parle quand on dit qu'on a atteint un pic? Parce que l'INES n'est pas capable de le dire.
Je pense que le nouveau directeur national de la santé publique, Dr Boileau, regarde toutes ces prévisions-là, trace les lignes et il fait, les pronostics. D'ailleurs, Dr Boileau a été lui-même directeur de l'INES pendant un certain temps. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance à notre nouveau directeur national de la santé publique. Mais en même temps, on regarde tout ça avec prudence et vigilance. Puis, je pense que le gouvernement s'adapte en fonction de l'évolution de la pandémie depuis le début. On pense bien avoir atteint un pic. En fait, qu'on l'atteindra vraiment dans les prochains jours, effectivement. Ça sera suivi d'un plateau. Puis, comme a dit Christian Dubé hier, on pense évidemment qu'il y aura une baisse, mais on peut pas présumer toujours de ce
non, mais
avec variant.
Évidemment. Je comprends, mais mettez-vous à la place d'un soignant qui regarde ça, que la référence scientifique est pas capable de se prononcer, puis que le directeur de la santé publique, qui est aussi un sous-ministre qui relève du gouvernement, lui, est capable de se prononcer. On se demande si c'est de la science ou de la science politique, là.
Bon, je pense que la référence, c'est la santé publique et c'est le directeur national de la santé publique qui reçoit, lui, des avis de l'INES, de l'INSPQ, qui reçoit des analyses internationales et qui fait, je voudrais, qui trace la ligne à travers toutes ses études et ses prédictions.
OK. Soyons dans le concret vraiment précis. Les tests rapides aux primaires vont être distribués quand?
À partir de la semaine prochaine, sur deux semaines, on va distribuer 3,6 millions de tests rapides et on répète l'opération ensuite en février, donc plus de 7 millions dans les prochaines semaines.
Et au secondaire?
Au secondaire, il faudra que les familles se rendent en pharmacie pour s'en procurer. Je sais que quand je dis ça, j'inquiète certaines personnes parce que ça a été très dur dans les dernières semaines. Par contre, on anticipe vraiment un changement complètement là dans les prochains jours, sinon une semaine. C'est par millions que les tests vont être disponibles en pharmacie.
Pourquoi c'est pas la même opération pour le secondaire?
On a voulu faciliter la vie des familles avec des jeunes enfants, puis on a voulu prioriser aussi préscolaire, primaire, parce que bon, préscolaires ne sont pas vaccinés du tout. Et au primaire, ben, c'est là que la couverture vaccinale est moins grande. C'est quand même très intéressant par rapport à il y a 2-3 mois. On a maintenant plus de 60% des jeunes qui ont une dose. Puis c'est quand même là que la couverture vaccinale est moins grande. Donc, c'est pour ça qu'on a priorisé.
OK, mais c'est parce que, dans le fond, vous dites aux parents qui ont des jeunes au secondaire, débrouillez-vous pour en trouver. C'est ça que vous leur dites?
Ben, tous les citoyens vont devoir se procurer des tests gratuits en pharmacie. Je pense pas que ça veut dire débrouillez-vous, là. C'est assez facile.
Monsieur Robert, je veux pas être plate, là, mais depuis que les tests sont à la pharmacie, les Québécois se débrouillent pour en trouver et ce n'est pas simple. Je dis pas qu'il faut enlever aux primaires. Je dis juste que j'ai de la misère à comprendre. Alors qu'on demande aux parents de faire confiance au système, de retourner les enfants, les ados en classe parce qu'on est d'accord sur le principe, c'est mieux ça. Comment ça se fait que l'État est pas capable d'équiper les écoles secondaires de tests rapides?
Les premiers, on doit prioriser quand on gouverne, et les premiers qu'on va recevoir, on va les envoyer dans nos écoles primaires. Je pense que c'est le bon choix à faire compte tenu de la couverture vaccinale.
OK, vous manquez de tests.
Ben, tout le monde voit bien que depuis quelques semaines, on n'en a pas suffisamment. Là, je vous dis que ça va vraiment changer dans les prochains jours, mais malgré tout, on veut prioriser le préscolaire primaire, parce que c'est là que la couverture vaccinale est moins grande. Mais vraiment, j'ai l'assurance qu'on recevra des millions et des millions de tests qui seront disponibles très bientôt en pharmacie.
Est-ce que quand vous allez en recevoir des millions et des millions, vous envisagez en distribuer directement aux écoles secondaires?
Pas dans un premier temps, mais il est fort possible qu'ensuite on en distribuera aussi dans les écoles secondaires. Mais je vous dirais que dans un premier temps, ce qui a été décidé, c'est d'y aller avec le primaire. Et d'y aller avec la distribution en pharmacie. Mais ça se peut que éventuellement, là, cet hiver, on distribue aussi à travers les écoles. Je veux mentionner qu'on aura aussi des tests rapides accessibles au personnel, autant dans les écoles primaires que secondaires, cependant. Ça, c'est important de le mentionner. Le personnel, lui, aura accès à ces tests rapides-là dans les écoles secondaires.
OK. Les fameux masques N95, je comprends que la santé publique dit que c'est pas nécessaire. On regarde ailleurs. En Ontario, on distribue les masques pour les professeurs qui le veulent, qui le souhaitent. Dans d'autres provinces, on le fait. Dans d'autres, on le fait pas. En France, c'est pas le masque de procédure qui est retenu. Si les profs se sentent plus à l'aise, plus en sécurité, plus confortables, pourquoi vous les fournissez pas?
Monsieur Arcan, c'est en temps de pandémie, puis quand on fait face à des choix difficiles, je pense qu'il ne faut pas juste y aller là, en disant ben on va rassurer les gens. Je pense qu'il faut. Ce qui est rassurant, je pense, c'est des gens qui se fient aux avis des experts. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un changement, parce qu'on a bien expliqué, chez moi-même bien expliqué, que tous les enseignants n'enseignent pas dans les mêmes conditions. Il y a des enseignants qui sont en classe spécialisée avec des élèves lourdement handicapés qui ne peuvent pas porter le masque. Et on pouvait pas dire qu'ils avaient les mêmes conditions que tout le monde. Donc, à compter de la semaine prochaine, ces enseignants-là et tout le personnel scolaire qui sont dans les classes spécialisées, dans les écoles spécialisées avec ces élèves-là, vont avoir les masques N95. Et autant la CNESST que la santé publique a dit, ben oui, effectivement, dans ce contexte particulier.
Mais qu'est-ce que l'Ontario a découvert qu'est-ce qu'on a découvert ici que l'Ontario a pas vu?
Ben, écoutez, je ne sais pas sur quelle base scientifique l'Ontario...
La science ne doit pas se promener d'une province à l'autre comme ça, voyons donc.
Non, mais les décisions politiques peuvent être différentes en fonction des avis qu'ils reçoivent. Nous, on se fie aux avis des experts. Je ne peux pas parler pour l'Ontario, mais nous, on se fie aux avis des experts.
Vous ne pensez pas que l'Ontario se fie aux avis des experts aussi?
Je ne peux pas présumer de rien. Monsieur Arcand, vous me demandez de porter un jugement sur ce qui se passe.
C'est parce que moi, Monsieur Robert, je me mets à la place d'un prof qui vous écoute ce matin. Là, si je suis prof en Ontario, j'ai droit à ce masque-là. Si je suis prof au Québec, c'est pas le cas. C'est quand même pas là sur des années-lumière de distance.
Monsieur Arcand, je pense que le gouvernement du Québec ne fait pas que calquer les politiques ontariennes ou albertaines. On se fie sur nos experts et avec ces avis-là, ce qu'on a décidé, c'est d'offrir les N95 à certains enseignants, c'est de changer le protocole, c'est de donner la troisième dose en priorité au personnel scolaire. Donc maintenant, nos enseignants auront accès à la troisième dose. En fait, ils l'ont depuis le début du mois. c'est de donner accès aux tests PCR aux enseignants. Tout ça, c'est des décisions qu'on a prises qui sont rassurantes, mais qui sont aussi le reflet des avis des experts.
Je sais pas si les profs sont si rassurés que ça. Je vais vous amener sur l'autre volet, qui est la question de la ventilation. Là, je sais qu'il y a une séance technique aujourd'hui avec les gens de votre ministère et d'autres experts. Là. Mais première question, depuis le début de cette pandémie, il y a eu dans combien de classes au Québec l'installation d'appareils échangeurs d'air ou d'appareils pour améliorer la qualité de l'air?
Je peux vous dire que depuis le début, depuis juillet 2020, donc entre la première et la deuxième vague, on a transmis les directives au réseau scolaire pour mettre l'accent sur la ventilation, pour faire des travaux en priorité. On en rendra public très, très bientôt un bilan complet des travaux qui ont été faits, mais énormément d'écoles ont vu leur système de ventilation améliorer, changer le système de filtrerie, changer le système de ventilation. On a changé des fenêtres, réparé des fenêtres. On a installé des échangeurs d'air. On a fait deux séances de tests de qualité de l'air parce que c'est le danger, c'est de travailler à l'aveugle. Il faut tester pour savoir l'impact des travaux qui sont faits. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va déployer ensuite des lecteurs de CO2. En fait, on est en train de les déployer.
Vous n'êtes pas capable de me dire ce matin combien d'écoles au Québec, combien de classes ont fait l'objet de ces travaux?
Bien, c'est ce que je vais déployer. C'est l'information que je donnerai très bientôt. Mais l'important, c'est de savoir que les gestionnaires qui s'occupent du parc école ont fait les travaux et nous donnent, je vous dirais, cette assurance que la qualité de l'air est tout à fait adéquate dans les écoles. C'est aussi l'avis de la santé publique.
Monsieur Roberge, l'Ontario, l'air fatigant que l'Ontario, là, distribue dans ses écoles, il y a un mouvement qui s'organise pour installer dans l'ensemble des classes où il n'y a pas justement une ventilation mécanique, des échangeurs d'air. Vous allez me dire que la santé publique pense que tout est correct ici puis ça va bien puis on a besoin de faire comme l'Ontario.
En fait, ce que l'Ontario installe, c'est pas des échangeurs d'air, là, c'est des petits systèmes de filtration portatifs.
Okay.
Et on a demandé à un comité d'experts indépendants ici d'analyser pour savoir quel est le meilleur outil. Puis ils nous ont dit non, ce qu'on appelle des purificateurs d'air, c'est pas la solution. Le but, c'est pas de filtrer l'air ou de brasser l'air à l'intérieur de la classe. C'est de sortir l'air vicié puis de faire entrer l'air frais de l'extérieur. C'est ça qu'on a besoin pour combattre les aérosols.
Okay.
C'est sur ça qu'on se concentre avec les systèmes de ventilation, avec les réparations les échangeurs d'air.
Est-ce que dans toutes les classes du Québec, aujourd'hui, ou en fait lundi, l'air va sortir, l'air va circuler par un moyen manuel ou mécanique? Pouvez-vous me garantir ce matin que dans toutes les classes du Québec où les enfants vont se retrouver, l'air circule correctement?
Oui, M. Arcan.
Vous êtes capable de me garantir ça?
Ça peut se faire par la simple ouverture des fenêtres, comme j'ai fait moi-même pendant 17 ans alors que j'étais titulaire de classe dans une école publique et qu'on ventilait la classe avec tout simplement en ouvrant ou en entrouvrant les fenêtres.
Il n'y a aucune classe au Québec qui a un problème de circulation d'air.
Prouvé. Ben, je crois pas. Je crois pas, parce que j'ai demandé cette question-là aux gestionnaires, et ce sont eux qui connaissent le parc école. Hein. C'est chaque directeur, directrice de centre de service scolaire qui connaissent le parc école. Ça fait 2 ans que je les talonne à ce sujet-là, et ils nous disent que les travaux sont faits. On va installer maintenant les lecteurs de CO2 qui vont nous donner des outils pour pas travailler à l'aveugle. Et s'il y a d'autres correctifs à faire, on les fera.
Je veux pas être plate, M. Roberge, mais sincèrement, là, j'ai un doute. Hier, je parle avec M. Prévost, qui représente les directions d'établissement, et qui me dit que la priorité, c'est pas des lecteurs de gaz, de CO2, là, c'est d'installer des appareils pour améliorer la qualité de l'air. Visiblement, il a l'air à penser que pas toutes les écoles du Québec sont équipées correctement.
Je sais pas sur quelle base se base Monsieur Prévost, puisqu'on a fait des tests de qualité de l'air dans l'ensemble des écoles du Québec. Et après, avec les résultats probants, avec les chiffres qu'on a, mais c'est avec ça qu'on se gouverne. Il y avait environ 10% des classes testées qui étaient au-dessus de ce qu'on souhaitait. On a donné les directives au centre de service scolaire et les budgets pour faire les travaux. Et maintenant, on me garantit que dans ces classes-là, les lecteurs de CO2 ont été installés en priorité. Donc, dès lundi, ils seront là. On pourra mesurer en temps réel l'efficacité de ces travaux-là et faire d'autres ajustements. Je pense que les gens s'attendent à ne pas avoir des opinions, des impressions, mais des décisions qui sont prises sur la base de mesures et d'avis scientifiques. C'est comme ça qu'on se gouverne, M. Arcan.
Ouais. Même si les avis scientifiques ont l'air de varier d'une juridiction à l'autre.
Tout à fait. Écoutez, nous, on se base sur les avis de nos experts ici et des experts indépendants qui ont été mandatés par la santé publique. Il ne s'agit pas de copier ou de calquer.
Non, mais
de
dans le fond, dans le fond, vous ne pouvez pas décider de rien. Vous ne pouvez pas dire comme ministre, moi, je pense que pour, mettons, rassurer les gens, on devrait. Vous, vous dites, moi, je ne décide pas, c'est la santé publique. Moi, je fais ce que la santé publique me dit de faire.
Non, c'est pas exact, M. Arcan, parce qu'après, l'obtention des budgets nécessaires, le leadership pour mettre la pression et travailler avec le réseau, le suivi qu'on fait pour que les travaux se fassent, les négociations même pour, faire les appels d'offres pour que ça bouge, ça, c'est le travail du ministre, c'est le travail du gouvernement, et on le fait.
Okay.
Et on le fait.
L'histoire des parents là, qui peuvent prendre la relève dans le plan de contingent, j'ai bien compris hier là, que c'est, comme on dit, le recours ultime. Vous pensez à quoi? Il manque un prof, puis le parent va accepter de venir garder la classe?
M. Arcan, c'est important de le mentionner. Là. Je suis content qu'on parle de ça, parce que c'est vrai que les prochaines semaines, là, ça sera pas facile avec Omicron là, qui va continuer de se promener. Je le répète, là, je pense qu'il va falloir que les parents soient compréhensifs, parce qu'il est possible à un moment donné que l'enseignant ou des membres du personnel de l'école soient en retrait pendant un certain temps. Dans ce temps-là, ben, c'est sûr qu'on se tourne vers les suppléants, les remplaçants, on se tourne vers des étudiants des facultés de sciences de l'éducation. On assigne du personnel, par exemple un conseiller pédagogique qu'on pourrait lui demander de revenir en classe, donner un coup de main, quelqu'un qui a déjà enseigné longtemps. Ultimement, il est possible qu'en dernier recours, on demande à un parent de venir faire, pendant un bref moment, de la surveillance de classe. Le temps qu'un enseignant arrive, parce qu'on ne veut pas laisser évidemment une classe là, sans okay. adulte. Mais il ne faut pas penser là, que ça y est, là, les enseignants sont remplacés par des
non,
parents.
Non, 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 je comprends ça. Est-ce que je comprends aussi, juste en terminant, qu'avec les nouvelles directives de la santé publique, on ne saura pas trop exactement ce qui se passe dans les écoles du Québec en termes de cas, puisqu'on change la mesure?
Bien, vous savez qu'on n'a plus les tests PCR. Uh-huh. On travaille maintenant avec les tests rapides. Donc, avec les tests PCR, on avait vraiment, en temps réel, tous les jours, tous les cas positifs, autant pour les élèves et le personnel. On rendait ça public, le réseau scolaire, là, quotidiennement sur Internet. Tout le monde le savait. Effectivement, on n'aura pas la même information qu'on avait, puisque ce sera sur la base de symptômes ou sur la base de tests rapides. Et ces informations-là ne sont pas envoyées directement au réseau de la santé. On va changer notre manière de compter. On va compter les absences. Et c'est de cette manière-là qu'on saura s'il y a davantage de cas. Et ces chiffres-là, cette nouvelle façon de compter-là, on rendra ça public, évidemment, en toute transparence. Mais là, on est en train, je voudrais, de changer notre manière de compter les cas et de gérer le réseau scolaire. Mais c'est certain que ça sera disponible sur Internet.
Monsieur Roberge, merci. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Jean-François Roberge est le ministre de l'Éducation.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, Québec pense qu'on a atteint une espèce de plafond et il y aura peut-être un plateau pour ensuite voir le nombre de cas redescendre, ce qui a amené hier l'annonce de l'ensemble de ces mesures. Et je pense que c'est important ce matin parce qu'on sait qu'on augmente la cadence de la vaccination. François Legault a reconnu hier que le Québec avait pris du retard, mais que là, on tente de rattraper, que la machine va mieux, qu'on va viser les gens qui... Puis on a élargi d'ailleurs la base d'accès là pour la fameuse troisième dose, puis on va essayer de vacciner également un maximum d'enfants à l'école. Donc, faisons le point avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Je veux juste qu'on clarifie un point tout de suite. Là, la décision de dire aux Québécois, si vous avez eu la COVID, que vos symptômes sont terminés, d'aller chercher votre troisième dose maintenant, c'est pas ça que vous recommandez, vous?
Non, pas du tout. Je pense que si vous avez eu la COVID, c'est-à-dire que vous avez eu un test positif ou que quelqu'un autour de vous, vous habitez quelque part, vous avez fait un test antigénique positif à un de vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, qu'il est sorti positif, que vous avez eu des symptômes secondairement à ça durant la période des fêtes, très fort probablement que vous avez eu la COVID. Évidemment, si vous avez eu un test PCR, vous avez eu la COVID. Donc, si vous avez eu la COVID récemment, ça veut dire que vous avez eu le variant Omicron. Et donc, et surtout, encore une fois, il faut le souligner, si vous avez eu deux doses ou même une dose de vaccin auparavant, à ce moment-là, ces gens-là, on recommande d'attendre environ un minimum de 3 mois. Ce serait probablement le bon temps à attendre avant d'avoir sa troisième dose ou sa dose subséquente, sa deuxième à la limite. Et l'avantage peut-être, c'est que plus on attend, il se peut que d'ici avril-mai, les vaccins arrivent avec des formulations qui vont être plus adaptées aux nouveaux variants. Donc, il n'y a pas d'indication à aller donner des vaccins à des gens qui viennent faire la COVID.
Bon, deuxième question. Quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, par exemple en Europe, et quand vous regardez la situation ici, est-ce que vous avez l'impression qu'on est rendu à une espèce de sommet, là? On ne dit pas que c'est sous contrôle et que ça baisse, mais qu'on a atteint peut-être les pires moments.
On est probablement pas loin du sommet, peut-être au début du sommet, mais rappelez-vous que le sommet, c'est pas un pic acéré qui arrive comme un pic et qui redescend tout de suite, même si on a dit qu'avec Omicron, il semblait avoir une forme un peu différente. Souvent, le sommet, c'est un plateau sur lequel on persiste pendant quelques semaines. Donc, même si on est arrivé au sommet, et probablement que si on l'est pas, on n'est pas loin. Mais c'est un plateau qui va persister parce que, rappelez-vous, on a fait l'image de cette boule de neige qui descendait un petit peu de la montagne et vous pouvez pas l'arrêter net. Et vu le nombre de cas, ça va nous prendre 4 semaines, 5 semaines avant d'avoir une éclaircie. Donc, on n'est pas loin du sommet, mais on va encore avoir certaines périodes difficiles. Il y a aussi des choses qui vont peut-être modifier. Donc, si à un moment donné, par exemple, est-ce que le retour à l'école va augmenter potentiellement le nombre de cas? Donc, il y a quelques incertitudes, mais on est certainement, je vous dirais, pas loin du sommet. Mais ce qui est important à se rappeler, quelle va être la durée du plateau au sommet?
L'autre question que les auditeurs se posent, et je la transmets, et le docteur Oliva, le président de votre fédération, était avec nous hier matin en disant il faut penser autrement, c'est Omicron, c'est pas Delta. Il y a toujours une inquiétude de dire est-ce qu'on va ramener trop vite des gens qui, par exemple, ont eu la COVID dans le réseau de la santé, près de patients qui sont à risque parce qu'on manque de personnel. L'idée, donc, de raccourcir la période d'isolement, vous en pensez quoi?
Ben, écoutez, moi, pour être transparent, j'ai donné déjà mon avis sur un comité en disant que dans les circonstances actuelles, qui sont des circonstances exceptionnelles, ce qui est important, c'est de donner les bons services à la population. Puis je parle à mes collègues des autres spécialités et je comprends qu'il y a des spécialités, l'orthopédie, l'ophtalmologie, beaucoup de spécialités chirurgicales, la chirurgie oncologique, où on ne donne pas au Québec actuellement les traitements optimaux aux patients pour toutes sortes de raisons. Donc, si vous cassez le bras, peut-être que vous n'aurez pas la bonne chirurgie au bon moment et vous allez rester avec des séquelles. On donne de la radiothérapie à des patients d'oncologie plutôt que de la chirurgie ou des traitements de chimiothérapie adaptés. Il y a des gens au Québec qui perdent la vision tous les jours parce qu'on leur fait pas leur chirurgie ophtalmologique. Ça, c'est des choses qui ne sont pas comptées dans les statistiques. Et on peut continuer la liste comme ça de façon très très longue et mes collègues dans toutes les spécialités vous disent qu'à l'urgence on est débordé, etc. Bon, alors il faut savoir que quand vous avez des travailleurs de la santé qui sont doublement mais surtout triplement vaccinés, on parle de travailleurs de la santé triplement vaccinés qui ont eu leur vaccin depuis plus de 16 jours, qui sont relativement en bonne santé, s'ils font la COVID, ils ne font pas une COVID très très sévère. Si ces gens-là reviennent par exemple après 5 jours en portant un N95 et en respectant certaines mesures, oui, le risque existe de transmission. Mais le risque zéro dans la vie n'existe pas en médecine. Quand on fait une intervention chirurgicale, quand on vous donne un médicament, quand on fait n'importe quoi, il y a toujours un risque. Et à ce moment-là, le risque pour des patients qui ne sont pas traités adéquatement actuellement, il est beaucoup plus grand de compliquer que d'attraper la COVID, qui en plus de ça, il risque de l'attraper dans la communauté, parce que si vous êtes alité suite à une fracture, ben il y a quelqu'un qui va venir vous s'occuper de vous et qui lui pourra peut-être vous transmettre la COVID. Donc moi je pense qu'il faut changer un peu notre approche et donc oui, la Fédération des médecins spécialistes, on voit cet aspect de façon différente, dans le sens que premièrement, on est arrivé à une étape où le virus en tant que tel n'est plus tout à fait le même virus de la première vague ou même de la deuxième vague, ou même celui de Delta, et où il faut redonner des services à la population, sinon on risque d'être dans l'irréparable. Et moi, j'ai décidé qu'on continuait de garder toutes nos cliniques externes ouvertes en maladies infectieuses à l'hôpital juif, parce qu'on a des services à donner à la population, et la télémédecine a ses bons côtés, mais ça ne peut certainement pas remplacer des choses qu'on peut faire en temps réel. Donc on n'a pas le choix que de retourner à une vision différente de l'approche qu'on pourrait avoir. Le modèle, si vous voulez, 1.0 de gestion de la pandémie ne doit plus être le modèle 5.0 de gestion de la pandémie.
Merci. Bonne journée, Dr Weiss.
Vous aussi.
Au revoir. Dr Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand.
On revient sur le dossier des écoles. Vous avez entendu le ministre qui nous dit que toutes les classes au Québec sont équipées, ou en tout cas de façon mécanique ou manuelle, pour avoir une bonne qualité d'air, que le N95 n'est pas nécessaire, suivant ainsi les avis des scientifiques. Alors, on va faire le tour d'abord avec Mme Marois Risky, qui est la porte-parole en matière d'éducation au Parti libéral du Québec. Marois Risky, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous partagez cette lecture que toutes les classes du Québec, il n'y a pas de problème d'aération, de ventilation?
Bien, il y a beaucoup de choses. Monsieur Roberge, notamment le danger de travailler à l'aveugle, et pourtant, c'est précisément ce qu'il fait. En matière de ventilation, notamment, je vous rappelle toute la saga de la qualité de l'air qui a été relevée par notamment le journaliste Thomas Gerbin, qui nous a démontré qu'il y a de l'ingérence politique et que le ministre ne nous a pas dit toute la vérité, qu'un membre de la santé publique a même dit que c'était broche à foin le protocole de test de qualité de l'air. Le premier ministre a demandé au ministre de l'Éducation de refaire ses devoirs. Monsieur Roberge devait refaire le protocole et retester la qualité de l'air. Ça n'a jamais été fait. Alors, sur quelle base il affirme ses propos?
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, je pense aux parents qui vous écoutent, là. Le retour en classe va se faire lundi. D'abord, êtes-vous d'accord avec le principe? Je comprends les modalités et tout ça, mais avec l'idée que les enfants primaires, secondaires doivent retourner en présentiel.
Absolument. Moi, j'ai lu et j'ai même talonné le ministre de l'Éducation sur un autre chiffre important. Le nombre de décrocheurs scolaires l'an passé a doublé. Et ça, c'est pas parce que j'ai eu les données de la part du ministre de l'Éducation. C'est encore une fois une journaliste, cette fois-ci Daphné Dionvien, qui a compilé des résultats par région et qui a démontré qu'effectivement, il y a eu un double de décrochage scolaire dans plusieurs régions au Québec. Alors là-dessus, la meilleure place pour nous, Parti libéral du Québec, les enfants, c'est à l'école. Ceci étant dit, quand j'ai entendu hier le premier ministre dire que lui avait des prévisions, moi, la dernière chose que j'ai lue de l'INES date du 5 janvier et le sommet de la courbe dans les lits des soins hospitaliers, dans les soins intensifs, c'est le 17 janvier. Alors encore une fois, quand on dit on ne veut pas avancer à l'aveugle, pouvez-vous nous déposer le tableau que le premier ministre a vu hier?
L'autre question, là, puis c'est pas une question piège, là, mais une fois qu'on a tout dit ça, là, ils n'ont pas fait leur job, ils auraient dû faire ça mieux, ça aurait dû être plus bon. Je vous dis aujourd'hui, là, l'école recommence. On fait quoi là pour s'assurer qu'à l'intérieur des classes du Québec, on minimise le risque, qu'on fait ça, il n'y a pas de risque zéro, là, mais on fait ça de la façon la plus sécuritaire possible. Dites-moi ce que vous feriez.
Demain matin, si j'étais ministre de l'Éducation, ouais. Première des choses, je n'appliquerais pas du mur à mur pour le Québec. Nous avons des endroits où la vaccination chez les enfants du primaire est vraiment au-dessus de 60%, alors que, par exemple, à Montréal, il y a une école qui est à 5% de vaccination. 58 écoles primaires à Montréal sont en bas de 30% de vaccination. Oui, j'ouvrirais, mais je ferais un blip de vaccination dans ces écoles précisément. Puis je m'assurerais, d'autre part, d'envoyer immédiatement une directive à l'ensemble des pharmacies pour dire, écoutez, on change de stratégie, réserver les tests rapides pour les familles, primaires et secondaires. Omicron ne s'arrête pas aux portes des écoles secondaires. On devrait tester. Je commanderai immédiatement là, des tests rapides pour être en mesure de tester sur une base hebdomadaire. Parce qu'apprendre à vivre avec le virus, c'est-à-dire outiller les familles québécoises à y faire face. C'est pas de leur dire « débrouillez-vous ».
Marois Risky, merci, bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Et cette fois avec nous, le leader, chef parlementaire de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Vous savez que les gens aiment beaucoup ça quand on a une approche positive. Mm-hmm. Et c'est un peu ce que j'ai envie de vous proposer ce matin. C'est que là, on regarde ça, puis vous le savez autant que moi, là, il y a un sentiment de d'anxiété, un peu de nervosité. Puis les Québécois sont divisés. Ouais. Tout le monde est d'accord pour dire oui, l'école, c'est parfait. faut que les enfants y retournent, mais dans quel contexte? D'abord, vous, êtes-vous inquiet personnellement de la situation dans les écoles?
Oui, je suis inquiet. La responsabilité du gouvernement, c'était oui, de permettre un retour des enfants dans les écoles, parce que on voit bien là, que l'école à distance, c'est pas facile pour les familles, c'est loin d'être l'idéal pour les jeunes eux-mêmes. Mais la responsabilité du gouvernement, c'était de s'assurer que cette rentrée-là se fasse de manière sécuritaire. Malheureusement, le gouvernement de la CAQ n'a pas rempli cette responsabilité-là. Résultat, oui, moi, je suis inquiet pour la rentrée de lundi.
Compte tenu de ça, si vous aviez des enfants, là, je sais que vous allez être père, là, mais si vous aviez c'est ça, des enfants d'âge scolaire, parce que là, la question, je l'entends, est-ce que vous les enverriez à l'école?
Je les enverrais à l'école parce que je pense que les jeunes du Québec en ont besoin. Mais ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement en fasse plus pour que cette rentrée soit sécuritaire. Je pense que Mme Risky, qu'on vient d'entendre, a mis sur la table quelques propositions intéressantes. Moi, je comprends pas pourquoi les profs au Québec n'ont pas accès à des masques N95 à peu près partout dans le monde, pas seulement en Ontario. On reconnaît que ces masques-là sont plus efficaces, puis pas plus efficaces seulement contre Omicron, hein, efficaces contre toute la transmission par aérosol en général. Pourquoi les profs du Québec sont pas mieux protégés? Ça pourrait rendre la rentrée plus sécuritaire. Des masques N95, le gouvernement nous dit qu'il en a dorénavant. Il n'y a aucune raison qu'on les rende pas disponibles pour que les profs au Québec soient mieux protégés et, par conséquent, que nos enfants aussi soient mieux protégés.
Mais je vous donne l'exemple. Globe and Mail ce matin, je faisais le tour, là, c'était la question des N95. Il y a le Québec qui ne veut pas en distribuer aux enseignants. L'Ontario le fait. Au Canada, il y a d'autres provinces qui ont décidé de ne pas le faire non plus. La science ne peut pas varier à ce point-là.
Vous posez une excellente question. Et moi, je ne comprends pas pourquoi partout à travers le monde, les masques N95 sont reconnus comme étant supérieurs. Et qu'ici, au gouvernement du Québec, depuis maintenant presque 2 ans, on tourne autour du pot et on refuse de mettre de rendre disponibles ces masques-là aux gens qui en ont besoin. Il y a quelques mois, là, on le refusait même aux employés dans le secteur de la santé, le masque N95. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, il y a des profs qui nous disent on se sentirait plus en sécurité d'enseigner. On a des familles qui nous disent on serait plus à l'aise d'envoyer nos enfants à l'école si cette mesure-là était mise en place. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas rendre ces masques-là disponibles. L'obstination de la Coalition Avenir Québec sur ce point-là, je ne la comprends pas, puis je la comprends pas depuis le jour 1 de cette pandémie-là.
OK. Un autre point, j'en ai parlé avec le ministre Roberge tantôt, là, concernant le rôle que certains parents peuvent jouer. Je comprends, là, l'idée, c'est pas que des parents remplacent des enseignants, c'est bien clair, là. Mais en même temps, quand on fait un plan de contingence, on essaie de préparer le pire en souhaitant que ça n'arrive pas, mais que si ça se produit, on est prêt. L'idée de permettre ou de demander à des parents qui ont du temps d'avoir une présence en classe. Êtes-vous d'accord avec cette idée-là dans le cadre d'un plan là, d'urgence?
C'est peut-être la moins pire des solutions, mais on n'aurait jamais dû en arriver là si on était intervenu dans nos classes pour les rendre plus sécuritaires. Pas en décembre dernier, là, mais il y a 1 an et demi, quand Québec solidaire a commencé à parler de l'importance de la ventilation, l'importance d'avoir des détecteurs de CO2, l'importance d'avoir des purificateurs d'air dans nos classes pour que nos enfants respirent de l'air de qualité qui ne les infecte pas à la COVID. Si on avait agi en amont comme ça, il y aurait moins de contamination dans nos écoles et le plan de contingence, on en aurait sans doute besoin, mais pas mal moins. Le problème, c'est qu'on en soit rendu là. Et je ne suis pas le premier ni le dernier à le dire, Jean-François Roberge, comme ministre de l'Éducation, l'a échappé sur toute la ligne tout au long de cette pandémie-là.
Gabriel Nadeau-Dubois, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, l'autre en fait, annonce importante vise ce qu'on appelle les grandes surfaces. Et on comprend là, que ce n'est pas une mesure sanitaire pure. Là. C'est une mesure pour dire aux vaccinés, vous avez votre passeport, vous avez été adéquatement vacciné, vous avez des privilèges que les non-vaccinés n'ont pas. Ce qui fait donc qu'à compter du 24 janvier pour Costco, Walmart, nommez-les, là, les grands magasins, ben, les clients devront présenter leur passeport vaccinal. J'en parle avec Michel Rochette, qui est président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Monsieur Rochette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Première question, c'est accueilli de quelle façon chez vos membres, là, cette espèce de sélection qui va se faire à la porte?
Ben, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on sait tous que c'est pas une mesure de santé publique. Puis on veut tous enrayer la pandémie, on y contribue. La difficulté qu'on voit venir, c'est d'abord la pression sur le personnel qui parce que vous avez beau dire qu'on donne un privilège. En fait, le but, c'est d'envoyer un signal aux non-vaccinés, mais les lignes d'attente vont être quand même pour tout le monde. Et les employés qui sont manquants, qui sont insuffisants en nombre, vont devoir désormais donc devoir gérer des lignes d'attente plus longues, de plus en plus, où les gens seront de plus en plus impatients. Tout ça pour envoyer un signal aux non-vaccinés. Notre crainte, c'est évidemment l'effet sur les employés eux-mêmes, puis de deux, évidemment, tout l'aspect technologique qui n'est pas encore réglé.
OK, donc ça veut dire que ben, la question technologique ne doit pas être si compliquée que ça à régler, là?
Ben, mine de rien, c'est que pour l'instant, ce que ça implique, c'est que les employés doivent prendre leur téléphone personnel, cellulaire, être à l'extérieur du commerce avec. Il ne faut pas qu'il y ait de bris techniques, il ne faut pas qu'il y ait de pépins, parce qu'évidemment, ça veut dire que la ligne d'attente va s'allonger, il faut que d'autres employés viennent au renfort. Alors, ça a l'air banal comme ça, mais la technologie elle-même, c'est le téléphone cellulaire, sinon ça prend des machines spécialisées qui ne sont pas présentes dans les commerces.
Je comprends, là, mais les restaurateurs ont fait ça assez rapidement. Là. Je pense pas qu'on a besoin d'un déploiement puis d'une formation.
Non, c'est pas besoin de formation, hein? Mais dans les restaurants, évidemment, la difficulté qu'on a, c'est on revient tout le temps sur la question des lignes d'attente. On a constaté, puis vous voyez depuis certains temps, évidemment, les lignes d'attente s'allongent parce qu'évidemment, il y a une limitation au nombre de personnes qui rentrent dans les commerces. Aller dans un restaurant, à l'époque, sous réservation, ou quand vous rentrez dans un commerce comme un restaurant pour aller manger pendant un certain temps, c'est une chose. Toutefois, maintenant, dans un magasin où vous rentrez pour faire une course de 5 minutes, vous devez attendre une demi-heure à l'extérieur. Faut juste calculer que c'est toujours les mêmes employés qui vont devoir gérer cette pression-là à la porte. Qui, encore une fois, il faut rappeler là, que ces employés-là ne sont pas très nombreux.
OK. Si je vous écoute, là, êtes-vous en train de me dire, dans le fond, que cette mesure qui va entrer en vigueur le 24 janvier va faire en sorte qu'on va retrouver des files d'attente de gens qui veulent entrer dans des magasins qui déjà sont frappés par un manque de personnel, puis dans certains cas, par des tablettes qui sont plus ou moins pleines?
Bien, c'est ce qu'on voit déjà pour la question de la limitation dans les commerces. Et maintenant, il y a donc naturellement, il y aura une file d'attente parce que tout le monde devra passer donc à sortir son téléphone pour montrer ses cartes d'identité, être sûr qu'il n'y a pas de complications, que la personne peut bel et bien voir le code, le scanner. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, c'est les mêmes employés qui, rappelons-le, font le service à la clientèle à l'intérieur du commerce, s'assurent que les étagères soient remplies, qui font la gestion là, des approvisionnements, qui sont aux caisses, qui font le service. Vous savez comme moi, quand les gens rentrent dans un grand commerce, qui cherchent un peu d'informations, ont besoin de services. Quand vous ne trouvez pas du personnel, ça rajoute un peu à votre bonheur ou votre malheur, en fait, quand vous abordez ces employés-là. Alors, il faut juste se rappeler que toute cette mesure-là qui vise à envoyer un signal aux non-vaccinés, mais tout ça va reposer sur les épaules des employés dans les commerces qui devront gérer la bonne et la mauvaise humeur des employés et des consommateurs.
Puis dans certains cas, on va se retrouver avec des employés qui ne sont pas vaccinés, qui vont vérifier si le client, lui, est vacciné.
Bien, tout à fait. Puis il faut gérer la question une fois qu'on a le client devant nous qui n'obtempère pas, qui ne veut pas, qui insiste pour dire, moi, ça, c'est mon épicerie, même s'il y a d'autres, parce que vous savez, il y a des commerces qui font aussi de l'essentiel et non essentiel.
Ouais.
Les clients sont les mêmes, vont vouloir rentrer. Alors, il faut juste s'assurer qu'on comprenne que c'est une pression qui est réelle. Évidemment, on n'est pas contre la mesure. Ce qu'on explique, c'est qu'il faut juste garder en tête que c'est pas aussi simple à appliquer que ça n'en a l'air.
Merci, M. Rochette. Au revoir.
Merci, au revoir.
Michel Rochette est le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail.
L'essentiel de Paul Arcand.
Vous parlez des approvisionnements. Hier, le fédéral a fait comme une espèce de volte-face en disant que, tel qu'annoncé, on doit appliquer le principe que les camionneurs qui vont aux États-Unis, qui reviennent au Canada, ben, doivent être vaccinés, sinon ils doivent se placer en période de quarantaine. Déjà qu'on manque de camionneurs, déjà que les approvisionnements sont difficiles, c'est sûr que sur la chaîne comme telle, il y aura un impact réel. Marc Cadieux est le président directeur général de l'Association du camionnage du Québec. Monsieur Cadieux, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
Bon, on comprend, là, vous êtes d'accord avec la vaccination, vous faites la promotion de la vaccination, mais de dire à des camionneurs non vaccinés, vous allez chez vous, ça a un effet là, réel.
Absolument, vous avez tout à fait raison en préambule. Nous sommes évidemment pour la vaccination. La promotion de la vaccination est faite dans nos entreprises. Mais mercredi soir, je reçois un appel de vos collègues médias qui me disent « Avez-vous vu l'annonce de services frontaliers canadiens qui vous permettront de conserver cette exemption-là? » Bon, là, on savait pas pour combien de temps. Non, je suis pas informé de ça. Alors, je peux vous dire que dans un moment de fragilisation de notre main-d'œuvre et de notre industrie, on n'avait certainement pas besoin de confusion. Et même hier, je dois vous dire que on a mis beaucoup de temps à corriger le tir. On a eu des communiqués en fin d'après-midi. Les trois ministres, dans leur communiqué, prétendent que l'industrie a été contactée pour expliquer les détails de tout cela. Au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu aucun appel. Je pense qu'on est assez facile à joindre. Donc, et je vous dis, c'est gros, là. On parle de 10 millions de camions de part et d'autre qui traversent le Canada et les États-Unis. On parle de 650 milliards de dollars d'échanges commerciaux qui sont entre le Canada et les États-Unis.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de camionneurs qui ne sont pas adéquatement vaccinés?
Écoutez, encore là, une fois, je vais lancer un peu un dard. Le fédéral nous parlait de 5%. On a demandé d'où venaient les chiffres. On ne les a jamais eus. On pense qu'on est le reflet avec des sondages qu'on a faits, mais faut comprendre que c'est toujours les taux de réponse nous portent toujours, évidemment, à savoir si on peut vraiment déterminer le chiffre. On est le reflet de la société. Au-delà de 80% sont vaccinés. Alors, mettons qu'on a peut-être une fourchette de 10 à 12 ou allant... J'irai pas jusqu'à 15 peut-être qui ne sont pas vaccinés. Alors appliquer ça sur les milliards de dollars qui sont exercés en échange, c'est certain que ça va avoir un impact. L'industrie du camionnage est à la matière première, à la matière en transformation et va vers aussi la consommation. Donc on est partout dans la chaîne et la chaîne, si elle est rompue et elle sera rompue, aura évidemment des effets importants sur l'approvisionnement.
Mais là, ça veut dire quoi? Votre proposition, c'est de dire, ben laissons conduire les non-vaccinés, puis on n'a pas le choix, il faut remplir les tablettes?
Ce qu'on demandait, c'était de nous donner encore un peu de délai, parce que c'est pas une question d'être exempté totalement, puis de repousser ça pour faire comprendre qu'on serait exempté, là. C'était d'avoir un peu plus de délai. Le ministre de la Santé nous dit qu'on est passé de 1500 à 6000 vaccinés par jour de premier et de deuxième vaccin. Donc, je pense bien qu'on a un pourcentage de notre monde qui sont là-dedans. Mm-hmm. C'est d'atteindre le meilleur chiffre possible. On n'atteindra jamais 100%. Les purs et durs qui ne veulent pas être vaccinés ne voudront jamais l'être. Mais ceux qui ont retardé, ceux qui craignaient, ceux qui voient évidemment l'étau se resserrer sur eux en société en général, vont peut-être faire partie de ce lot-là. Nous, le but, là, puis j'ai joint mes forces avec manufacturiers et exportateurs, parce qu'eux aussi sont préoccupés, c'était d'aller chercher un peu de temps pour aller améliorer notre chiffre. Vous le savez, il y a certains secteurs de la société qui ont tenté d'imposer ça et qui ont dû reculer parce que le mur était là. Ben moi, je vais vous dire qu'on va, on va frapper le mur, ça c'est certain.
Merci, M. Cadieux. Au revoir, bonne journée. Marc Cadieux est le PDG de l'Association du camionnage du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.